Bonjour à tous. C'est un plaisir de se voir ou de se revoir pour certains qui sont partis déjà en vacances, d'autres pas encore, d'autres sont revenus, d'autres qui reviennent et que nous avons le plaisir de voir. En tout cas, c'est là que nous constatons que la famille de Dieu n'est pas une théorie, mais c'est une réalité et nous la vivons et nous sommes appelés à la vivre de jour en jour. Tout à l'heure, nous avons chanté dans le premier chant « Conduis-moi à mieux te connaître, à mieux connaître Dieu ». Et c'est, je crois, tout ce que nous faisons ici, le dimanche matin, mais pas uniquement, n'a qu'un seul objectif, mais c'est celui-là. C'est que de jour en jour, alors à la fois chez nous, le reste de la semaine, mais dans tous les aspects de notre vie, et aussi quand nous nous rencontrons ici, lorsque nous chantons, lorsque nous prions ensemble, lorsque nous louons ensemble, lorsque nous écoutons la parole et que nous nous mettons à son écoute, il n'y a qu'un seul objectif, c'est d'être dans une relation de plus en plus intime avec Dieu et dans une meilleure connaissance de qui il est, de ce qu'il veut pour nous, et sachant que ce projet est un bon projet pour nous. Alors, le texte que j'ai choisi ce matin est un texte que vous connaissez probablement, et c'est les trois premiers versets du psaume 1er. Donc que nous allons lire dans la version du semeur. Et donc je vais le lire et ça s'affiche devant vous. Alors on pourrait lire tout, mais en fait il y a tellement de choses à dire sur ces six versets que j'ai dû me limiter et donc je vais me limiter aux trois premiers versets. Et ce sera déjà bien pour nous ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert et tout ce qu'il fait lui réussit. Alors on va s'arrêter là. C'est presque des mots qui se suffisent à eux-mêmes, tellement ils sont parlants. En tout cas, moi, ils me parlent et ils m'ont parlé, même si nous les connaissons, même si nous les relisons sans cesse. Mais vous savez, il y a des moments où, je ne sais pas pour vous, mais où on lit, où on connaît les textes, on les lit 50 fois, 100 fois, peut-être depuis qu'on a l'âge de... Depuis qu'on est né, c'est mon cas, l'école du dimanche, on a entendu ces versets. Et il y a des moments où certains versets, ben, tout d'un coup, prennent une lumière qu'elles n'avaient pas avant. Alors ça dépend de notre état, ça dépend de notre attitude, ça dépend de nos besoins, ça dépend de plein de choses. En tout cas, on peut se laisser conduire par Dieu quand ces moments arrivent, et on peut ouvrir les oreilles et ouvrir son cœur pour que ce qu'il a à nous dire à ce moment-là puisse atteindre son but. Alors ce texte, je l'ai... Alors, il y a... Voilà. Donc j'ai trouvé ce titre. Il est comme un arbre ou la source du bonheur. Alors je ne sais pas vous, mais comme probablement pour la plupart des êtres humains sur cette terre, nous sommes tous à la recherche du bonheur, non ? On a tous envie d'être heureux. On a tous envie d'être bénis, de vivre des choses qui nous paraissent, en tout cas, heureuses. La principale question qui se pose, c'est de quel bonheur parle-t-on ? Parce qu'on peut tous avoir une conception différente de ce qu'est le bonheur. Est-ce que le bonheur se résume à des situations favorables ? Est-ce que le bonheur se résume au plaisir ? Est-ce que le bonheur se résume au plaisir qu'on peut trouver dans certaines situations ? Et du coup, est-ce que ce bonheur peut disparaître quand ces situations changent ? On peut tous avoir, et on est tous passés, je pense, par ce genre de questionnement. Et ce texte nous parle, je pense, du vrai bonheur, ou en tout cas, du chemin qui y mène. D'un chemin qui y mène. Et par opposition, il nous parle aussi d'un chemin qui n'y mène pas. C'est pour ça que j'ai intitulé cette méditation avec vous ce matin, « Il est comme un arbre, c'est la source du bonheur ». Alors, il y a deux autres textes, ce n'est pas le seul texte dans la parole qui évoque ce thème. Et pour ceux qui lisent, qui méditent et qui connaissent la parole, vous le savez, vous avez probablement plein d'autres versets. Mais il y en a deux autres qui ont attiré mon attention et que je veux juste citer pour que vous puissiez y faire référence, peut-être les relire, parce qu'ils évoquent quasiment dans les mêmes termes exactement la même chose que le psaume premier. Et il s'agit donc du livre de Josué, donc le successeur de Moïse, et qui, dès le chapitre premier, dit ceci, on lui dit ceci, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. » Vous voyez l'équivalence des termes. « Avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc on retrouve les mêmes termes dans un autre passage de la Bible. J'en ai choisi également un autre, qui est encore plus marquant parce qu'il est encore plus proche de ce que nous venons de lire, et qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 17 et au verset 7 à 8. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. » Là, vous avez vu qu'il y a une petite différence, on l'évoquera tout à l'heure. « Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. » Alors, je ne fais que les citer parce qu'ils viennent en résonance à ce psaume premier. Et puis peut-être qu'au cours de ces quelques mots, ils vont encore résonner dans mon cœur et dans le vôtre. Donc ce livre, ce chapitre, mais qui est aussi le premier d'un livre, commence par une béatitude, commence par le terme « heureux ». Alors si vous êtes comme moi, qui croyez qu'il n'y a pas de hasard dans la parole, que ceux qui l'ont écrite sont des auteurs inspirés, non seulement dans le contenu de ce qu'ils écrivent, mais aussi dans la manière dont ils agencent l'ensemble de ces versets, alors nous devons considérer, je vous demande de considérer avec moi, que ce n'est pas un hasard si le premier verset d'une liste de 150 psaumes commence par ce terme, « heureux ». Il y a là comme quelque chose qui s'ouvre, il y a là comme un projet pour nous, pour les auditeurs, pour les lecteurs du psalmiste, et donc ce n'est pas un hasard si le psalmiste, pendant ces trois premiers versets de tout ce qu'ils vont écrire, puisqu'il y a plusieurs auteurs des psaumes, comme vous le savez, mais le livre des psaumes a été agencé comme ça, alors nous pouvons déjà avoir un premier enseignement, c'est que ça a du sens que ces trois premiers versets se situent à cet endroit-là du livre des psaumes et pas à un autre. Ça montre qu'il y a, pour toute la suite des psaumes, donc on en connaît beaucoup, moi j'aime bien le psaume 23, Il y en a plein d'autres. Mais pour toutes, jusqu'au 150e psaume, ça veut dire que ces quelques versets, ces trois premiers versets, ont une importance pour tout ce qui va suivre. Et c'est aussi, alors on ne va pas complètement aller dans ce sens aujourd'hui, mais je vous demande de garder ça à l'esprit lorsque vous lirez un psaume, de peut-être revenir à chaque fois que vous en lisez un, de revenir à l'origine, aux trois premiers versets. Parce que peut-être que ça va éclairer d'une manière nouvelle ce que vous lirez dans les psaumes suivants. Donc, heureux. C'est quoi ce terme « heureux » Alors, dans d'autres versions, le mot qui est traduit peut être traduit par d'autres termes. Le terme en hébreu signifie effectivement « heureux », il signifie aussi « bénédiction », mais il signifie aussi, dans la racine du mot qui est utilisé ici, et ça aura une importance pour la suite, vous le verrez, il signifie aussi « avancer », « faire des progrès ». Donc vous voyez, ce n'est plus, il y a une question, la question du bonheur, la question de la bénédiction que Dieu apporte et que Dieu propose dans son plan, mais il y a aussi cette idée de progression, d'avancement, de progression dans un chemin qui nous est proposé dès ce premier verset. Alors, je vais séparer en trois points, si vous le voulez bien, mais je vais le faire peut-être d'une manière inhabituelle, mais j'ai trouvé, en tout cas, moi je l'ai lu comme ça et je vous le propose, ça ne va pas être thématique, mais on va reprendre la lecture de ces quelques versets, et puis de temps en temps on s'arrêtera pour nous laisser interpeller par quelques-uns de ces versets, par quelques-uns de ces mots, et puis je l'espère, comme je l'espère aussi pour moi, pour que nous en sortions de ce lieu avec quelques enseignements pour notre vie pratique. Alors ces premiers versets, et le verset numéro 1, qui est un peu plus long que le verset numéro 2, donc commence par évoquer ce que la bénédiction dépend de ce qu'il n'y a pas à faire ou de ce que nous ne faisons pas. Alors ça peut vous interpeller, mais on aurait pu penser que le psalmiste dise « heureux » et puis aille directement vers le verset 2 en disant « heureux celui qui trouve son plaisir ou sa joie dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit ». C'est ça le plan, c'est ça le programme. Et pourtant, il ne commence pas par là. Il commence par une négation, il commence par une interpellation négative, une invitation négative à ne pas faire. Celui qui est heureux, c'est d'abord celui qui ne fait pas un certain nombre de choses. Et ça, ça a du sens. Et le premier renseignement que je vous partage, c'est que Dieu, en fait, vous savez, est un pédagogue. Il sait faire avec nous, il nous connaît, et il sait très bien que s'il nous montre un chemin systématiquement par notre nature, on va forcément aller dans le sens opposé. Parce qu'on a envie de découvrir. Vous savez, c'est comme ça depuis qu'on est enfant. On dit à un enfant, va pas là parce que tu vas te brûler. On peut lui montrer tout le reste, mais il va quand même y aller, peut-être se brûler, peut-être apprendre, mais on a besoin de ça. En tout cas, on a besoin de nous présenter plusieurs choses pour nous inviter à choisir. Et c'est ce que fait Dieu, là. Il ne nous dit pas directement, je te conseille, moi, de méditer ma loi jour et nuit. Il commence par nous dire, je te conseille de ne pas faire ça. Et dans ce conseil de ne pas faire certaines choses, il y a, vous l'avez vu, trois verbes. Il y a le verbe marcher, il y a le verbe s'arrêter, il y a le verbe s'asseoir. Le verbe marcher est associé à des impies, comme dit un certain texte, une certaine traduction. S'arrêter, c'est avec les pécheurs, et s'asseoir, c'est avec les moqueurs. On peut se dire, mais pourquoi cette différence? Pourquoi cette... Et j'y vois, et je vous la propose, j'y vois là un enseignement, parce qu'il y a une triple progression dans ce que nous révèle le psalmiste dans ce premier verset. Premièrement, une progression dans le chemin qui déplaît à Dieu. Parce que ce qui nous est présenté là, c'est finalement un chemin qui déplaît à Dieu, pour ensuite mieux nous proposer celui qui va plaire à Dieu, celui dans lequel nous allons pouvoir trouver une bénédiction. Marcher, s'arrêter, s'asseoir, c'est un peu le résumé de notre histoire, de notre vie quotidienne. C'est le résumé de toute notre activité de la journée. Nous marchons, nous avançons, nous réfléchissons, nous nous asseyons pour réfléchir, pour nous reposer. Nous, parfois, nous arrêtons pour penser. C'est un peu le résumé de l'activité humaine. Et pourquoi le psalmiste nous interpelle avec ces trois termes? Parce que vous voyez aussi qu'il y a une progression dans l'attitude à l'égard de Dieu. On commence par marcher avec des personnes qui ne croient pas en Dieu. Ensuite, on s'arrête avec des personnes qui pêchent, des pêcheurs, il y a un degré supplémentaire. Et puis pour finir par s'asseoir avec des moqueurs, ceux qui se moquent, sous-entendu ceux qui se moquent de Dieu. Et donc on voit là qu'il y a une progression dans un chemin qui n'est pas celui qui plaît à Dieu, et une progression dans laquelle, frères et sœurs, nous pouvons aussi nous laisser entraîner. Ça peut commencer de manière très sournoise, très subtile. On peut commencer tout simplement à marcher et à écouter le conseil de quelqu'un, peut-être qu'on ne discerne pas qu'il est méchant. Méchant dans le sens opposé à Dieu. Mais on marche et on écoute, et on se laisse peut-être influencer par une conception du monde, par une conception de la vie, par une conception de qui est Dieu, par un système de pensée. Tout cela, nous y sommes, je pense, soumis de différentes manières, et avec une manière très très présente aujourd'hui, les médias, les réseaux sociaux, etc. Nous marchons dans ce monde-là. Et nous devons faire attention à ce conseil des méchants, parce que l'étape qui suit, c'est que nous pouvons facilement nous arrêter et passer une étape supplémentaire avec ceux qui pêchent volontairement contre Dieu, pour ensuite arriver, et ce n'est pas souhaitable, à quelque chose d'encore plus grave. C'est de s'arrêter sur ce chemin, ne même plus avoir conscience qu'on est sur un chemin mauvais, et de s'arrêter avec ceux, carrément, qui se moquent de Dieu. Alors, cette triple progression est là, je pense, parce que le psalmiste veut attirer notre attention sur le fait que qui que nous soyons croyants ou pas, nous pouvons être sur un tel chemin. Nous pouvons être peut-être à une de ces trois étapes-là. Et nous sommes amenés à prendre garde, à ne pas progresser. Et si nous sommes à la première ou à la deuxième étape, ou même si nous sommes à la troisième étape, parce que Dieu est un Dieu de grâce, et il sauve tout le monde, il appelle tout le monde au salut, mais prenons garde, prenons conscience et réfléchissons de savoir où nous en sommes avec notre relation au monde qui nous environne. Donc cette première partie, c'est une interpellation négative de ce qu'il faudrait, pour être heureux, ne pas faire. Alors bien sûr, si ça s'arrêtait là, ce serait un peu difficile à accepter pour nous. Mais parce que Dieu veut le meilleur pour nous, il a préparé le meilleur pour nous et il nous le propose, eh bien il nous conduit, il nous invite à une voie qu'il nous précise dans le verset 2. Et ce verset 2 dit ceci: « Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. » Quelle sobriété, je dirais même, quelle simplicité. C'est aussi simple que ça, Seigneur, pour être heureux, que de simplement trouver son plaisir dans ta loi et puis de la méditer. Est-ce que vraiment c'est si simple que ça? Vous savez, parce que notre nature est aussi telle qu'elle est, nous sommes des incrédules par nature. Et même parfois devant des choses évidentes, moi il m'arrive devant des choses évidentes, on ne croit toujours pas, hein, on doute que ça existe, on doute que c'est ça, on doute que... Frères et sœurs, nous pouvons faire beaucoup d'efforts, matériels, humains, peut-être même spirituels, pour trouver le bonheur. Pour tenter de trouver le bonheur, et selon notre conception, pour trouver le bonheur que Dieu veut pour nous en plus. Nous pouvons faire énormément d'efforts. Nous pouvons dépenser une énergie folle. Nous pouvons peut-être nous dépenser corps et âme pour mériter ce bonheur. Mais là, le plan qui est proposé par Dieu ne parle pas de tout ça. Il est très simple. C'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, ou sa joie dans la loi de l'Éternel, et la méditer jour et nuit. Point. Ne trouvez-vous pas que c'est un plan finalement très simple et pourtant si compliqué? Convenons-en, et je le dis pour moi en premier, c'est excessivement compliqué. Et pourtant ce qui nous est proposé, en tout cas dans les termes qui sont utilisés là, qui sont choisis par le psalmiste, c'est d'une simplicité. La source du bonheur, c'est dit là, se trouve dans la loi de l'Éternel. Alors le terme qui est utilisé ici, c'est le terme Torah. La loi, c'est la Torah. Alors le psalmiste écrit à son époque, les psalmistes écrivent à leur époque, c'est la loi de l'Éternel, c'est l'ensemble, c'est le Pentateuch, hein, c'est les cinq premiers livres, avec l'ensemble du plan que Dieu annonce, d'abord à certains hommes, hein, des bénédictions, à Adam, à Noé, ensuite à un peuple entier, à Moïse, à la loi, et c'est tout ça, la loi de l'Éternel. Et ce qu'on trouve dans cette loi de l'Éternel, c'est quand même énormément de choses. On y trouve des instructions, on y trouve des commandements, on y trouve aussi des promesses. Dieu promet. Dieu passe des alliances avec Adam, avec Noé, ensuite avec Abraham. Il passe des alliances. C'est ça aussi la loi. C'est un Dieu qui donne effectivement des instructions, mais parce qu'il veut entrer en contact avec sa créature. Et donc, pour entrer en contact avec cette créature, il passe une alliance. Et pour que cette alliance soit concrète, et parce qu'il sait très bien de quoi sont faites ces créatures, eh bien, il leur livre des instructions. Donc, cette loi a ceci de magnifique, qu'elle n'est pas juste une liste de règles, mais elle s'inscrit dans un plan de Dieu de rentrer en relation avec ses créatures, de rentrer en relation avec vous, avec moi, par une alliance qu'il conclut avec nous. Alors il y a l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance, à travers le sacrifice de Jésus, à la croix, sa mort et sa résurrection, mais c'est toujours une alliance que Dieu veut conclure avec nous, avec un commandement. Et dans le Nouveau Testament, vous savez que Jésus dit « Je vous donne maintenant un commandement nouveau, je ne suis pas venu venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et je suis venu maintenant vous donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est toujours la loi. Et il y a dans ce psaume le plus long des psaumes. Savez-vous lequel c'est le plus long des psaumes ? Le psaume 119. Alors je le cite parce que dans le psaume 119, il y a 176 versets. Et si vous le lisez du début à la fin, dans ces 176 versets, il y a à chaque fois un mot, pas toujours le même, mais qui sont des synonymes de ce qu'est la loi de l'Éternel, de ce qu'est la loi de Dieu. Alors on trouve décret, on trouve édit, on trouve promesse, on trouve plan, on trouve plein de choses, entre 25 et 30 termes différents. C'est dit de manière très construite. Vous savez que ce chapitre 119 est construit, c'est un acrostiche je crois, il est construit de manière, chaque lettre de l'alphabet hébraïque est utilisée pour 8 versets, enfin c'est très très joli et très bien construit. Voilà. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que dans chacun de ces versets, on trouve un des termes qui caractérise la loi de l'Éternel. Donc je vous invite à le relire. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, vous savez que Paul invite Timothée à considérer, dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture, on peut mettre en parallèle la loi de l'Éternel, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et cette loi, le psalmiste nous invite pas simplement à la lire et à la connaître. Vous avez vu que dans le verset 2, il est dit « toute sa joie, il la met dans ». C'est différent. Alors, mettre toute sa joie dans quelque chose, ça suppose effectivement qu'on, surtout dans un écrit, ça suppose qu'on l'ait lu. Ça suppose qu'on l'ait connu, ça suppose peut-être qu'on l'ait relu, peut-être que ça suppose qu'on l'ait appris par cœur, mais ce n'est pas suffisant. Ce que dit le psaume, c'est toute sa joie, il la met dans. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je dois bien admettre que pour moi, je ne mets pas toujours toute ma joie dans la loi de l'Éternel. Je la lis, comme vous tous, je la relis, je la médite aussi, j'essaye. Mais j'avoue, bien humblement, que je ne mets pas toujours toute ma joie, parce que parfois ce qui est écrit ne me plaît pas trop. Ou j'estime que ce n'est pas pour moi, ou en tout cas pas pour moi maintenant. Le terme qui est utilisé aussi, ici, c'est le terme donc prendre plaisir, se complaire, mais il y a aussi une variante qui dit être disposé à, se plier à. Et voyez-vous, prendre plaisir à quelque chose, c'est aussi se plier à. Être disposé, que tout son être soit disposé à, pas simplement lire, mais à accueillir ce que ça veut dire, accueillir le sens que ça a pour nous. Et ça ouvre des perspectives énormes pour nous. C'est pas juste une lecture, c'est pas juste une liste de règles. Non, il y a un sens, il y a un projet. Et pour accepter ce projet, pour comprendre ce projet, nous sommes appelés à nous à tendre vers, vous voyez l'image, à tendre vers, à être disposé, à plier notre volonté, à plier notre être pour accueillir ce qui nous est dit. Trouver tout son plaisir, c'est ça. Alors, il serait vain de penser, mes amis, il serait vain de penser que nous pourrions nous dispenser de cette attitude à l'égard de Dieu. Ou alors nous décidons de manquer quelque chose. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas toujours disposés, et Dieu sait cela. Nous avons nos préoccupations, nous avons notre vie, et Dieu les connaît, qui font que, avec notre nature, avec ce que nous sommes, nos émotions, nos sentiments, nous ne sommes pas toujours, oui, on n'est pas ni des robots, ni des gens parfaits. Encore ce monde, notre chair est attachée à nous. Mais il faut qu'on demande à Dieu vraiment de nous aider à nous plier, parce que c'est un projet de vie qu'il nous propose. Si lui nous le propose, c'est qu'il sait ce qui est bon pour nous. Et donc nous devons nous plier pour recevoir l'entièreté, et dans la manière la plus complète possible ce qu'il veut pour nous. Et cette parole, il faut la méditer jour et nuit. Alors, je ne sais pas, ça vous arrive de vous réveiller la nuit, d'avoir des insomnies ? Non ? Moi, souvent. Et notamment cette nuit. C'est pas sans lien avec ce qui est en train de se passer. Mais oui, j'ai souvent des insomnies. Alors, ce qui nous est demandé, là, même si c'est utile de se réveiller la nuit, et, vous savez, tôt le matin, enfin, il y a des gens du soir et des gens du matin, moi, je suis plutôt du matin, mais c'est vrai que quand, à la fraîcheur du jour, quand aucune occupation, quand il n'y a pas le téléphone, quand il n'y a pas encore le portable, quand il n'y a pas les emails encore, c'est vrai que ça fait du bien. Hein, à la fin de la nuit ou au début du jour, ça fait du bien. Alors ce qui nous est demandé là, c'est évidemment de ne pas le prendre au pied de la lettre. Nous sommes des humains, nous avons besoin de nous reposer et de dormir. Mais le jour et la nuit, comme tout à l'heure, marcher, s'arrêter, s'asseoir, signifie hein, toute l'activité humaine. Dans une journée, et bien là, le jour et la nuit signifient toute une vie. Le jour et la nuit, c'est 24 heures, c'est la totalité de notre vie qui est dépendante de la parole de Dieu. Avec ce qu'elle contient pendant la journée, avec ce qu'elle contient aussi pendant la nuit. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, que l'approche de la parole de Dieu et de la loi de l'Éternel, ça ne peut pas être une partie de notre vie. Ça ne peut pas être le dimanche, ça ne peut pas être même pendant toutes les réunions de la vie communautaire pendant la semaine. C'est toute notre vie qui doit dépendre de la loi de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire. Le jour et la nuit, c'est toute notre vie. Même quand nous n'en avons pas conscience pendant la nuit, c'est de se placer sous la conduite de Dieu, de sa loi, parce que notre vie en dépend. C'est cela que ça signifie. Et il faut la méditer. La méditation, ce n'est pas juste non plus la lecture, c'est la compréhension, c'est la réflexion, et parfois, Dieu sait que parfois, même si la parole a été faite pour des enfants, et il nous est demandé d'être comme des petits-enfants pour la comprendre, mais parfois, c'est quand même pas simple, hein, quand on lit certains textes. En tout cas, d'en tirer la leçon pour nous, c'est pas simple, on a besoin de toute l'aide de Dieu pour ça. Mais c'est aussi, la méditation, c'est aussi trouver comment on l'intègre dans notre vie. Comment on l'applique à des situations concrètes dans notre vie. C'est ça aussi la méditation. Mais si nous nous appliquons à ça, et ce sera le troisième point, il y a quelque chose qui suit, ce merveilleux verset 3. Il nous est projeté une image. Cet homme-là, alors cet homme et cette femme, qui se plaît dans la loi de l'Éternel, et qu'il la médite jour et nuit, eh bien, il est comparé à un arbre. Alors, il y en a des dizaines, j'en ai trouvé une comme ça, elle m'a bien plu. Un arbre, donc c'est pas n'importe quoi dans la nature, c'est un arbre. Et cet arbre, il est planté. Et ce qui est incroyable, je ne le savais pas, je l'ai découvert en préparant ce message, le terme hébreu qui est utilisé dit « planter » ou « transplanter ». C'est-à-dire changer de place. Est-ce que vous savez, et je l'ai réalisé, et donc je vous le partage parce que ça a été, non pas une révélation, mais ça m'a beaucoup réjoui, c'est que quand nous avons accepté Christ dans notre vie, quand nous l'avons accueilli, quand nous avons accueilli cette bonne nouvelle, Christ nous a fait de nous une nouvelle créature. Amen. Il a fait de nous une nouvelle créature. Et il vous a placé, et il nous a placé, il nous a transplanté quelque part. C'est lui qui nous a planté. On ne s'est pas planté tout seul. Planté au sens, vous l'avez compris, planté l'arbre. Ça nous arrive souvent de nous planter justement tout seul. Mais c'est pas merveilleux ça, de réaliser que Dieu nous a planté. Alors, peut-être que quand il nous a planté, on n'était pas aussi grand que ça. Mais il nous a planté. Il nous a placés à l'endroit qu'il voulait pour nous. Il faut qu'on en soit convaincu. Parce que c'est une assurance pour nous. Si on doute de cela, on peut voguer, on peut même douter de Dieu. Non, Dieu, mon frère, ma sœur, t'a transplanté, il t'a mis à l'endroit qu'il voulait absolument pour toi. Et cet endroit, c'est pas n'importe quel endroit. C'est bien sûr l'endroit que tu occupes dans ta vie sociale, professionnelle, familiale, conjugale. Oui, c'est ça, mais il t'a planté près d'un courant d'eau. Il ne t'a pas planté près d'un lac ou près d'une eau qui stagne. Il t'a planté près d'une eau qui coule. Alors déjà, il t'a planté près de l'eau, et vous savez que la nature, l'homme est en effet à combien, 70 ou 80% d'eau, c'est ça, et la nature a besoin d'eau, elle en a besoin d'ailleurs en ce moment. Il nous a planté près de l'eau, mais pas simplement que de l'eau qui coule. Pas de l'eau qui stagne, pas de l'eau qui peut pourrir, pas de l'eau dans laquelle il y a des algues. De l'eau qui coule. Je peux pas. Je sais qu'il y a toujours un risque à faire des allusions ou des parallèles, mais je ne peux pas m'empêcher, je vous le livre, probablement que vous le lisez aussi comme ça. Vous savez que l'eau, dans la Bible, a plusieurs significations, parle de la bénédiction de Dieu, peut parfois qualifier la parole, mais évoque aussi l'esprit. Dans Jean, vous connaissez ce texte, dans Jean 7, verset 38, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et puis dans 1 Corinthiens 12, Paul alerte, alors en parlant des dons, mais Paul alerte ses auditeurs en disant qu'ils ont tous été abreuvés par l'esprit. Donc il y a quelque chose de parallèle dans cela. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Que Dieu ne nous a pas plantés à n'importe quel endroit, il nous a communiqué son esprit, il nous a plantés à côté de son esprit pour qu'il coule en nous, que sa vie coule en nous. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire premièrement d'en prendre conscience, évidemment, mais ça veut dire que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une bénédiction comme ça de temps en temps. Ce que veut Dieu pour nous, c'est notre bonheur en permanence, renouvelé par l'eau qui coule en nous. On picore souvent, vous savez. On prend quelque chose qui est... Et puis on s'accroche à ça et on a raison. C'est vrai qu'il faut rendre grâce pour ce que Dieu fait pour nous. Mais Dieu a en permanence des choses bonnes pour nous. Il n'est pas limité. S'il nous a bénis une fois, c'est... gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il est infini. Il est infiniment grand, infiniment bon. Et donc ses bontés se renouvellent chaque matin, comme dit un autre texte de l'Écriture. Si nous nous laissons abreuver par cet esprit, frères et sœurs, il y a une conséquence de cet arbre. Son feuillage est toujours vert. Il est toujours vert. Alors, j'ai lu tout à l'heure dans Jérémie, parce que le texte dit, c'est un tout petit peu différent, il dit que cet arbre ne craint pas la sécheresse. C'est un petit peu différent et ça complète un petit peu ça. Mais en tout cas, ce feuillage est toujours vert. Il est toujours vert, pourquoi ? Parce qu'il se laisse nourrir de l'eau, de la vie, cet arbre. C'est pour ça qu'il est toujours vert. Mais il y a aussi autre chose que je vous partage, c'est que si cet arbre, ce magnifique arbre, son feuillage est vert, ce n'est pas que pour lui-même. On est bien content lorsque le soleil tape de pouvoir se réfugier autour d'un arbre comme celui-là, non ? Ça veut dire que le feuillage n'est pas utile que pour cet arbre. Le feuillage révèle qui il est. Mais il est utile pour cet arbre, mais pas que. Il peut être utile pour d'autres. Et moi, je vous partage cette pensée toute simple, que l'arbre que nous sommes appelés à être, cet arbre qui porte du fruit, cet arbre dont le feuillage est toujours vert, révèle qui nous sommes. En Dieu, en Christ, nous avons chanté tout à l'heure, hein, nous avons parlé d'identité en Christ. Quelle est notre identité en Christ ? Notre identité, c'est ça. Mais aussi, notre feuillage, notre vie dans la parole, eh bien, elle sert à d'autres, elle peut protéger d'autres, elle peut couvrir d'autres. Et c'est ce qui se passe dans l'Église de Christ. On est appelé à se soutenir les uns les autres, à se supporter les uns les autres, à prier les uns pour les autres. C'est ça. Moi, je vois un parallèle, je ne sais pas vous, mais moi, j'y vois ce parallèle-là, dans l'Église, si nous sommes tous des arbres comme ça. Parfois, il nous arrive d'être un petit peu plus chétifs, Eh bien, nous avons besoin du feuillage des frères et sœurs pour nous protéger, pour nous conseiller, pour nous exhorter, pour nous... Et il y a un texte que je vous cite, on pourrait aller plus loin, mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine. Mais dans Apocalypse 22, verset 2, il est parlé aussi d'un arbre de vie. Et il est dit ceci, donc je vous le cite juste pour que ça vous fasse réfléchir. « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Je vous le cite juste comme ça. Je ne fais pas de parallèle, ça mériterait de s'y pencher, peut-être qu'on s'y penchera, mais je voulais quand même le citer parce que le feuillage que nous sommes tous amenés à porter peut guérir les autres, peut aider les autres, est utile. Et donc c'est nécessaire que nous laissions abreuver pour être cet arbre. Enfin, tout ce qu'il fait lui réussit. Alors ça, quand on lit le psaume, ce verset vraiment il nous plaît. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais quand on le lit mieux, il n'est pas dit tout ce qu'il fait réussit. Il est dit tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pas pareil. Parce que vous savez, nous, dans notre, avec nos pensées, évidemment, on a une certaine conception de ce qu'est la réussite dans ce monde. La réussite professionnelle, la réussite financière, tout ce qu'on peut voir, tout ce qui nous est présenté aussi dans les médias, ce n'est pas de cette réussite-là dont il s'agit. Le terme qui est utilisé ici signifie prospérer, être profitable. C'est-à-dire que ce qui réussit, c'est ce qui est accompli dans un projet défini et qui atteint son objectif. Et ce qui réussit, c'est ce qui est profitable. Et pourquoi c'est profitable ? Ben, tout simplement parce que ça résulte de la lecture de la parole. C'est cohérent. Si nous pensons que Dieu nous a révélé un plan, nous révèle un plan de bonheur et non de malheur, comme dit aussi un autre prophète, j'ai pour vous des projets de bonheur, et que nous nous appliquons à les recevoir, à les comprendre, et que nous nous appliquons à les mettre en pratique, mais inévitablement, ça va porter du fruit et ça va réussir parce que ce sera conforme au plan que Dieu avait. C'est logique. Dieu est quelque part logique. Je suis désolé, c'est un peu diminuer Dieu de le qualifier de terme humain, mais c'est quand même logique, c'est compréhensible. On peut raisonner et comprendre ce dont il s'agit. Tout ce que nous faisons en conformité avec la parole nous réussit en ce sens que ce sera dans le plan que Dieu a pour nous. Et vous connaissez ce merveilleux texte, hein, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », etc. Voilà quelques réflexions que j'avais à cœur de vous partager. Et en conclusion, deux points. Dieu veut votre bonheur. Et notre bonheur, notre bien, notre bénédiction, il veut, si on s'attache à la signification de ce terme, il veut qu'on avance, il veut qu'on progresse, il ne veut pas qu'on stagne, il ne veut pas qu'on s'assoie sur un banc avec des moqueurs, il veut qu'on progresse. Vous voyez, les courbes, elles peuvent se croiser. Il y a d'une part, dans le premier verset, une courbe qui descend, on commence par marcher, puis on s'arrête. Il n'y a plus d'espoir, quelque part. Et puis l'autre, elle est progressive. On est planté, on met sa confiance, on comprend et on progresse, on croit. C'est ce plan que Dieu a pour nous. Alors, peut-être que ce matin, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas cet arbre. C'est possible. Moi, je me le dis aussi, je ne suis pas cet arbre. Ou pas tout le temps, ou très peu. Mais il n'en demeure pas moins que nous pouvons nous approcher de Dieu et dire, Seigneur, tu m'as planté. Je t'appartiens, je suis ton enfant. Tu m'as planté, tu m'as donné ta parole. Tu m'as donné ton esprit pour me conduire dans toute la vérité. Tu as dit que jamais tu ne m'abandonnerais. Alors Seigneur, je me confie en toi. Aide-moi à devenir cet arbre. Aide-moi à disposer mon cœur pour recevoir cette parole, pour la comprendre, pour la mettre en pratique, pour faire ta volonté, parce que je veux devenir cet arbre. Je veux devenir cet arbre parce que c'est ce à quoi tu m'appelles. Je veux aussi être cet arbre parce que c'est ce à quoi tu m'appelles pour les autres, pour ceux qui m'entourent, pour le monde. Et Jean-Daniel, Cherline et toute l'équipe, quand vous sortez au RER, je pense que vous êtes ces arbres. Je pense que vous êtes ces arbres. Et nous pouvons tous l'être à certains moments de notre vie. Parfois, on peut être un arbre, cet arbre dans notre milieu professionnel, lorsqu'on est à l'écoute de nos collègues. Même si on ne parle pas de l'Évangile de manière très directe, mais on est cet arbre, parce qu'il voit quelque chose de différent en nous. Alors, mes frères et sœurs, vraiment, voilà, je voudrais nous encourager, je me mets vraiment au premier plan de cet encouragement. Voilà, demandons à Dieu de nous aider, avec cette assurance que c'est lui qui nous a plantés, c'est lui qui est avec nous, c'est son esprit qui nous conduit, mais disposons notre vie, c'est tout ce que nous avons à faire, disposons-nous, plions-nous, soumettons-nous, parce qu'il veut que le meilleur pour nous, et il veut que nous soyons cet arbre. Je vous invite juste à quelques secondes de silence. Et si vous souhaitez dans votre cœur dire à Dieu, mais Seigneur, je veux être cet arbre parce que je ne le suis pas encore, que je sois déjà converti ou pas, mais je veux l'être, et bien soyez assurés qu'il va vous répondre. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est pour nous source de vie. Merci parce qu'elle nous parle, elle nous instruit, elle nous interpelle, et nous te sommes reconnaissants pour cela. Parce que tu ne nous laisses pas seuls, tu ne nous laisses pas errer dans nos pensées, dans nos systèmes de pensée, mais tu viens nous interpeller, tu viens au cœur de nos vies, pour nous faire comprendre qui tu es et quel projet merveilleux tu as pour nous. Seigneur, merci pour ces quelques paroles, merci pour le plan que tu as pour chacun d'entre nous, un plan de paix, un plan de bonheur. Et Seigneur, aide-nous les uns les autres pendant ce temps estival, ce temps de congé, où peut-être nous avons un peu plus de temps. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher ou de nous rapprocher de toi et de ta parole, pour discerner, découvrir le plan que tu as pour nous. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Merci pour l'esprit que tu nous as donné. Et merci pour ta présence et ta grâce dans nos vies. Amen. Merci pour votre écoute.